Chapitre 9. Ce furent les jumeaux, Bill et Till, qui, pour l'essentiel, firent les frais de la conversation, l'un reprenant fondu en gêné le récit là où l'autre le laissait. De temps en temps, Tantine Thalesa ajoutait un détail, apportait une rectification, et les jumeaux attendaient respectueusement jusqu'à être certains qu'elle eût fini. Sai n'ouvrit pas la bouche. Assis, son café intact devant lui, il tiraillait les brins de paille qui hérissaient le large bord de son sombrero. Roland ne tarda pas à se rendre compte qu'il savait peu de choses, en effet, même pour ce qui avait trait à leur propre ville. Ce qui, au reste, ne le surprit pas. Ces derniers temps, les souvenirs s'estompaient très vite, et plus rien ne semblait exister, hormis le passé le plus récent. Mais ce qu'il savait était inquiétant, ce qui n'étonna pas non plus Roland. À l'époque de leur trisaïeul, River Crossing ressemblait à la bourgade que Susanna avait imaginée. Un lieu de négoce sur la grande route, moyennement prospère, où des marchandises se vendaient parfois, mais étaient le plus souvent troquées. Elle avait fait partie, du moins nominalement, de la baronnie du fleuve, bien que même alors baronnie ou propriété terrienne fussent tombées en désuétude. Dans ces temps-là, il y avait des chasseurs de bisons, quoique le commerce de ces bêtes eût périclité. Les troupeaux étaient peu nombreux et avaient subi de funestes mutations génétiques. Sans être empoisonnée, la viande de ces mutants était rance et amère. Pourtant, River Crossing, sise entre un lieu qu'on appelait simplement le débarcadère et le village de Jimtown, avait joui d'un certain renom. Elle se trouvait au bord de la grande route et n'était qu'à 6 jours de voyage de la cité par la terre, 3 par péniche. Sauf si le fleuve était à sec, dit l'un des jumeaux. Dans ce cas, c'était plus long. Et mon grand-père disait que quelquefois il y avait des péniches échouées tout le long du cours vers l'amont jusqu'à Tom's Neck. Les vieillards ne savaient rien des habitants originels de la cité, bien sûr, ni des technologies qu'ils avaient utilisées pour bâtir tours et tourelles. C'étaient les grands anciens. Et leur histoire s'était perdue au plus lointain du passé, même lorsque le trisaïeul de Tantine Thalesa était enfant. Les édifices sont toujours debout, dit Eddie. Je me demande si les machines dont les grands anciens de l'âge d'or se sont servis pour les construire marchent encore. Possible, répondit l'un des jumeaux. Si c'est le cas, jeune homme, il n'est pas un homme ou une femme ici qui sache encore comment les faire fonctionner. C'est ce que je crois, si fait. Nenny, argumenta son frère. Je doute que les anciennes façons de faire soient complètement inconnues aux gris et aux ados, même maintenant. Il regarda Eddie. Notre père disait qu'il y avait jadis des bougies électriques dans la cité, certains prétendent qu'elles brûlent peut-être encore.
Voyez-vous ça ?
Répliqua Eddie pensif. Susanna lui pinça méchamment la jambe sous la table. « Si fait, » dit l'autre jumeau avec sérieux sans s'apercevoir du sarcasme. Vous appuyez sur un bouton et d'éclatant de bougie, ne dispensant pas de chaleur, s'allume sans mèche ni réservoir à pétrole. Et j'ai entendu dire qu'autant jadis Quick, le prince hors-la-loi a volé dans le ciel à bord d'un oiseau mécanique, mais une des ailes s'est cassée et il est mort en une longue chute, comme Icar.
Susanna en fut bouche bée.
Vous connaissez la légende d'Icare ?
Ah, madame, dit-il à l'évidence surpris qu'elle trouve le fait curieux. L'homme aux ailes en cire d'abeille.
Des contes pour enfants, l'un et l'autre, déclara Tantine Thalesa avec un reniflement de mépris. Je sais que l'histoire des Lumières qui ne s'éteignent jamais est vraie, car je les ai vues de mes propres yeux quand je n'étais qu'une enfant sonne, et il se peut qu'elles brillent par-ci, par-là, oui, là. Certains, que je crois, sur parole, affirment les avoir aperçues par nuit claire, bien que moi-même je ne les ai plus revues depuis de longues années. mais aucun homme n'a volé ça, non, pas même les grands anciens.
Pourtant, il y avait bel et bien d'étranges machines dans la cité, construites pour accomplir des tâches particulières et parfois dangereuses. Il se pouvait que nombre d'entre elles fonctionnent toujours, mais selon les jumeaux, personne en ville désormais ne savait comment les mettre en marche. Il y avait des années qu'on ne les avait entendus.
N'empêche, peut-être que cet état de fait pourrait changer, pensa Eddie, les yeux brillants. Supposons par exemple qu'un jeune gars entreprenant, ayant la fibre voyageuse et s'y connaissant un minimum en machines bizarres et en lumières qui ne s'éteignent jamais, vienne à passer par là. Peut-être qu'il ne s'agit que de trouver les boutons marche. Je veux dire, le truc pourrait être aussi simple que ça. Ou peut-être que c'est juste une histoire de fusible sauté. Imaginez, les amis, en remettant une demi-douzaine d'ampoules de 400 ampères, on illuminerait le coin comme Renault un samedi soir.
Susanna lui donna un coup de coude et lui demanda à voix basse ce qu'il y avait de si drôle. Eddie secoua la tête et porta un doigt à ses lèvres, récoltant un regard courroucé de l'amour de sa vie. Les albinos, entre-temps, poursuivaient leur récit, s'en passant et s'en repassant le fil avec l'aisance toute de spontanéité que seule sans doute confère une vie de gémellité. Quatre ou cinq générations plus tôt, disait-il, la cité était fort peuplée et normalement policée, bien que ses habitants eussent mené parfois chariots et phaétons le long des larges boulevards que les grands anciens avaient percés pour leurs fabuleux véhicules sans chevaux. Les citadins étaient des artisans et, pour reprendre le terme des jumeaux, des manufacturiers, et le commerce, tant sur le fleuve qu'au-dessus, était florissant. Au-dessus ? Interrogea Roland.
Le pont qui enjambe la Seine existe toujours, expliqua Tantine Talitha. Ou du moins existait-il, voilà 20 ans. Si fait. Le vieux Bill Muffin et son garçon l'ont vu il n'y a pas 10 ans.
Acquiesça Sai, apportant ainsi sa première contribution à la conversation. « À quoi ressemble-t-il ? » demanda le pistolero.
« C'est une grande structure de câbles et d'acier, » dit l'un des jumeaux. « Il est accroché dans le ciel comme la toile de quelque araignée géante. »
Il ajouta timidement,
« J'aimerais le revoir avant de mourir. » « Il est probablement détruit à l'heure qu'il est, » déclara Tantine Talitha, évacuant le problème d'un geste et bon débat. « C'est l'œuvre du diable !»
Elle se tourna vers les jumeaux.
« Dites-leur ce qu'il est advenu depuis lors et pourquoi la cité est devenue si dangereuse. On entend dire que 2 ou 3 fantômes hantent les lieux, mais moi j'affirme qu'ils sont légion. Ces gens veulent partir. Et le soleil est au couchant. »